Seigneur, en effet, merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Elle nous éclaire, elle nous montre la voie qu'il faut suivre. Et Seigneur, je te demande pardon ce matin pour toutes les fois où nous nous sommes écartés du chemin éclairé par ta parole. Où Seigneur, nous nous sommes trompés, nous avons péché contre toi. Nous nous sommes rebellés contre toi, Seigneur, où nous avons dit non. Nous ferons ce que nous voulons faire. Et combien de fois, Seigneur, nous l'avons payé cher. Ô Seigneur, incline nos cœurs vers ta parole. Incline notre volonté à vouloir l'obéir, coûte que coûte. Même dans ces instances où elle paraît peut-être illogique par rapport à ce que le monde fait autour de nous, Seigneur, nous savons qu'elle est droite, qu'elle est juste. Et encore ce matin, Seigneur, dans notre sujet, Seigneur, que ta parole de nouveau soit cette lumière brillante. Et je t'en remercie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bah écoutez, ce matin, nous revenons à notre étude de 1 Timothée. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les prendre et les ouvrir à 1 Timothée, et nous sommes au chapitre 3. Et le sujet que nous allons aborder ce matin, c'est le sujet intitulé, que j'ai intitulé « Les anciens conducteurs de l'église locale ». Les anciens conducteurs de l'église locale. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que nous allons lire les versets 1 à 7 de 1 Timothée 3. D'accord ? 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors juste pour nous rappeler un petit peu le contexte de ce texte, le but de cet épître que Paul a écrit à ce jeune pasteur Timothée qu'il a laissé à Éphèse pour mettre l'ordre là-bas, dans 1 Timothée 3 et le verset 15, Paul lui écrit et lui dit, verset 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, le but de cet épître, c'est d'expliquer, de décrire comment il faut se comporter dans l'église de Dieu. Et une des raisons que nous avons choisi cet épître, c'est parce que nous sommes une église relativement nouvelle, et on s'était dit que la meilleure manière de savoir comment être une église, c'est d'étudier ce que la Bible dit sur le sujet. Et alors au chapitre 1, nous avons en premier vue, dans les versets 1 à 17, le rôle de la bonne doctrine dans une église. Important qu'une église soit enseignée de manière claire et nette doctrinalement. Ensuite, au verset 18 et 20, nous avons vu, drôle de le dire comme ça, mais le rôle du combat, ou le rôle du bon combat. Hein, on le voit au verset 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat. Et ce qu'on apprend, c'est que l'Église n'est peut-être pas un beau voyage rose sans problème, mais que c'est un combat parce que Satan est contre l'Église et contre l'avancement du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Donc, tôt ou tard, il y aura des combats à mener. Ensuite, chapitre 2, versets 1 à 7, nous avons vu le rôle de la prière. Et là, particulièrement, que nous devrions prier pour les rois, pour ceux qui sont élevés au-dessus de nous, prier pour eux, prier que nous puissions avoir une vie paisible et que l'Église puisse continuer son œuvre d'évangélisation et de croissance dans une société qui l'autorise. Ensuite, au verset 8 du chapitre 2, nous avons vu le rôle des hommes, et particulièrement là, le rôle des hommes qui devraient mener dans ce travail spirituel, et en particulier, comme il est dit au verset 8, dans le domaine de la prière. Et ensuite, nous avons vu, au chapitre 2, verset 9 à 15, le rôle de la femme dans l'Église. Et donc, il y a pas mal de versets sur le rôle des hommes, le rôle des femmes, et encore aujourd'hui, sur le rôle des leaders et particulièrement des anciens. Et ça, c'est le chapitre 3, versets 1 à 7, notre texte pour aujourd'hui, le rôle des anciens. Le rôle des anciens, d'où le titre de mon message, les anciens conducteurs de l'Église locale. Alors, il faut dire que ce sujet tombe vraiment bien du fait que nous venons d'entamer le procédé pour la nomination de nouveaux anciens dans notre Église. Alors, si vous êtes membre de l'Église, vous avez reçu, j'espère que vous avez reçu parce que cela a été envoyé à tous les membres de l'Église, vous avez reçu cette semaine une lettre expliquant le procédé pour nommer les anciens dans l'Église. Et ce sont les directives qui se trouvent dans notre constitution, dans les statuts et dans le règlement intérieur. Donc si vous n'êtes pas membre, vous n'avez pas reçu cette lettre, mais vous pouvez prendre une copie des statuts derrière pour savoir comment le procédé fonctionne. Et alors, ça tombe vraiment bien parce que cette étude va nous aider à mieux comprendre ce que sont les anciens ou ce que devraient être les anciens d'une église locale et comment les nommer. Alors avant de rentrer dans le sujet, dans le détail du sujet, il faut savoir que lorsque Dieu créa l'homme pour vivre sur terre, il savait que l'homme aurait besoin de structures bien définies pour qu'il puisse vivre en harmonie les uns avec les autres. Et on pourrait résumer que Dieu a instauré sur terre trois grandes institutions dans lesquelles vivent les hommes, des institutions qui requièrent justement des structures d'autorité bien définies. Cette première structure, c'est ce qu'on appellerait le gouvernement. Et la Bible nous dit, verset très intéressant, Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Dieu sait très bien que sans une autorité, il y a anarchie. Il doit y avoir autorité, même des mauvaises autorités sont mieux qu'aucune autorité. Donc, il y a une structure qui s'appelle l'État ou le gouvernement auquel certains mènent et d'autres doivent se soumettre à cette autorité. Deuxième structure où nous trouvons ce même schéma, c'est la famille. La famille, dans 1 Corinthiens 11, 3, Paul dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme » que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Que Dieu est le chef de Christ. Donc, de nouveau, nous voyons une certaine hiérarchie, une certaine structure, et nous avons déjà analysé ces choses en détail dans le passé, donc on ne va pas revenir dessus, mais Dieu veut qu'il y ait structure, qu'il y ait soumission à une autorité établie comme il est le cas dans le gouvernement. Nous le voyons aussi vis-à-vis des enfants avec leurs parents dans Éphésiens 6, 1. Donc, trois grandes institutions, le gouvernement, la famille, la troisième de ces institutions, il doit y avoir autorité et soumission, c'est l'Église. Dieu a conçu qu'il y ait de l'ordre dans les églises. Et pour ce fait, il doit y avoir des responsables. Dans 1 Corinthiens 14, 33, petit verset intéressant, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Et c'est intéressant, pour qu'il y ait de l'ordre, il doit y avoir structure, et ces structures existent dans l'Église. Et dans Hébreux 13, 17, il y a le principe, donc vis-à-vis de l'Église, « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car il veille sur vos âmes dont ils devront rendre compte, et qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc de nouveau, nous le voyons très clairement qu'au niveau de l'Église, il doit y avoir une structure avec autorité et soumission. Et donc, 1 Timothée 3, notre texte, le texte que nous examinons, commence une section fascinante des Écritures où justement les structures de l'Église locale sont clairement établies, et surtout ce qui concerne les responsables de l'Église locale qu'on appelle les anciens. Et il y a plusieurs questions auxquelles ce chapitre va répondre. Par exemple, qui devrait conduire l'Église locale? Que devraient être les critères de choix pour de tels responsables? Qui devrait les choisir et comment? Que sont-ils appelés à faire exactement en tant que responsables d'église? Ils font quoi? C'est quoi leur travail exactement? Combien devrait-il y en avoir de ces anciens? 1, 2, 10, 20, 50? Pendant combien de temps devrait-il servir en tant que responsable? Donc ça, c'est quelques-unes des questions. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres et nous allons les voir au fur et à mesure de notre étude. Alors, on ne va pas tout finir aujourd'hui, ça, de nouveau, ça va être une mini-série, mais vous connaissez comment on fait dans notre Église. On prend notre temps, parce qu'on aime aller en profondeur. Alors, je me suis dit encore, avant de rentrer dans le portrait de ce que devrait être un bon leader, un bon ancien, peut-être prendre quelques minutes et regarder l'opposé, serait intéressant, et nous aiderait à mieux comprendre ce à quoi devrait ressembler un ancien. Alors, je me suis posé cette question. Y a-t-il dans la Bible un exemple, quelque part, d'un mauvais leader? Un mauvais leader? Eh bien, je pense que oui. Allons à Matthieu 23. Je vais vous montrer quelque chose. On va aller très vite, mais c'est très intéressant. Le portrait d'un mauvais leader. À quoi ne devrait pas ressembler un ancien? D'accord? Voici à quoi ne devrait pas ressembler un ancien. Alors ici, c'est Jésus qui dénonce les pharisiens. Et les pharisiens étaient les leaders juifs à l'époque. Et la religion juive était devenue très corrompue, et ces leaders étaient eux-mêmes devenus très corrompus. Et ici, Jésus, vraiment au summum, juste avant sa crucifixion, maintenant les dénonce. Et c'est eux, finalement, qui vont appeler à le faire crucifier, n'est-ce pas? Et alors, nous avons ici les critères, si on peut le dire ainsi, d'un mauvais leader. Regardez le verset 1. « Alors Jésus, parlant à la foule, et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » J'étais en Israël en juin dernier, et il y avait une synagogue dans un de ces villages où on était. Il y avait une chaire en pierre, une sorte de chaise, et on devait se mettre dessus. Ils appelaient ça, c'était la chaire de Moïse. Et quand les pharisiens étaient assis sur la chaire de Moïse, là, ils parlaient avec autorité. D'accord? C'était leur espace d'autorité. Alors Jésus, parlant à la foule et à les disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » C'est eux qui ont la responsabilité de mener. Ce sont les leaders. D'accord? Les leaders. Et voici leur problème. Numéro 1. Ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils avaient un gros problème. Ils disaient ce qu'il fallait faire parce qu'ils utilisaient la parole de Dieu, mais eux ne faisaient pas eux-mêmes ce qu'ils disaient à d'autres de faire. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Ils ne pratiquaient pas ce qu'ils prêchaient. Première marque d'un mauvais leader. Deuxième marque d'un mauvais leader, ils écrasent les gens avec des exigences non bibliques que eux-mêmes ne pratiquent pas. Regardez le verset 4. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Alors l'image reflète une image très commune à l'époque, comme aujourd'hui encore dans certains pays, celle de charger un chameau ou un âne ou une autre bête de charge au point où cette bête ne peut à peine bouger. L'animal est chargé d'une immense charge et en avançant sur la route, Le maître marche à son côté sans rien porter lui-même, sauf peut-être le bâton avec lequel il frappe la pauvre bête qui est écrasée par le poids de la charge. Et si elle devenait à trébucher sous le poids d'une telle charge, alors le maître la frapperait encore plus fort, sans émettre aucun sentiment de compassion envers cette bête surchargée. Et les pharisiens à l'époque avaient inventé des centaines, voire des milliers de lois extra-bibliques. C'était des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, mais ce sont des traditions, des choses qu'ils ajoutaient et qu'ils demandaient, exigeaient au peuple de faire. Mais eux ne le faisaient pas, eux-mêmes. Et ça, c'est l'autre marque, ou deuxième marque, d'un mauvais leader. Et dans Matthieu 15, dans Matthieu 15, il dit au verset 6, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Donc, voici la deuxième marque. La troisième marque d'un mauvais responsable, c'est qu'il est orgueilleux. Verset 5, « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. » Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Et ils aiment la première place et dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Voyez-vous, ils agissaient pour être vus. Ils aimaient le prestige d'être vus en tant que responsables et leaders. Donc c'était vraiment que du show. Mais il n'y avait rien d'authentique et ils avaient tout, je dirais, les éléments religieux des phylactères, des franges. Ils avaient ces fameuses boîtes qu'on mettait là avec la loi dedans. Ils avaient des franges à leurs vêtements, ce qui était prescrit dans la loi, mais ils les mettaient particulièrement longues pour être très visibles, pour que les gens les voient passer et disent « Waouh ! Ça, c'est vraiment une personne religieuse ! Waouh !» Mais le vrai problème, c'est qu'ils voulaient être vus. Ils voulaient être à la première place. Les premiers sièges, nous dit le verset 6, dans les synagogues. Donc ils étaient orgueilleux et ils aimaient l'honneur. Verset 7, quatrième point, ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Ils aiment être salués, ils aimaient se promener, qu'on les voit, on les voyait comme des chefs religieux. « Bonjour, bonjour ». Ça fait du bien d'être salué parce qu'on est quelqu'un de religieux, parce qu'on est bien vu. Et voilà sur quoi Jésus mettait le doigt ici. Cinquièmement, ils aimaient les titres. Ils aimaient être salués, verset 7, dans les places publiques, à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Ils aimaient bien entendre « Ah, Rabbi, Rabbi », pas Rabbi Jacob, hein, d'accord ? Mais vous ne faites pas appeler Rabbi, maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Alors est-ce que c'est un mal, disons, d'être docteur, ou est-ce que c'est un mal d'être maître, ou est-ce que c'est un mal d'avoir un titre ? Le titre en lui-même n'est pas un mal, mais ici, ils voulaient qu'on les appelle par ce titre. C'était ça qui leur faisait se sentir bien en eux-mêmes. Ils aimaient les titres et ils voulaient les titres rajoutés.
Amen, pasteur.
Amen. Pasteur, merci. Ouais, c'est amusant, hein. Ouais. Est-ce qu'on aime ces titres ou est-ce que ça fait partie de la vie? C'est tout le motif et le mobile ici qui est souligné. Et verset 11, il aimait être servi et pas servir. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Voilà, un mauvais leader n'aime pas servir. Il veut être servi par contre. De nouveau, c'est le mobile ici. Et septièmement, il est aveugle aux conséquences de son erreur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Ces mauvais leaders n'avaient aucune idée des conséquences désastreuses
de leur comportement.
Et Jésus les condamne ici. Il les maudit parce qu'il leur dit qu'à l'intérieur, ils sont corrompus. Alors je trouve intéressant, n'est-ce pas, de voir l'opposé d'un bon leader, de voir ce qu'est un mauvais leader. Alors, revenons maintenant à l'autre texte, 1 Timothée 3. Qu'est-ce qu'un bon leader? Alors, c'est l'opposé. Voilà, fin de message. Non, d'accord, on va quand même continuer un petit peu, d'accord? Qu'est-ce qu'un bon leader et surtout, à quoi devrait ressembler un ancien? Alors, on va être très simple dans notre structure. Premièrement, définissons ce qu'est un ancien. Quelle est la définition des anciens ou d'un ancien? Eh bien, parce qu'en fait, regardez au verset 1 de 1 Timothée 3, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et c'est ce mot évêque. Alors, pourquoi ce mot évêque? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, la Bible utilise trois termes pour décrire ce qu'est un ancien, d'accord? Trois termes pour décrire une facette chaque fois différente de ce qu'il doit être. Le premier terme, c'est le terme ancien. Le terme en grec, c'est le terme presbyteros, duquel nous avons presbytère, d'accord? Il est utilisé 70 fois dans le Nouveau Testament. Nous l'avons par exemple dans Actes 14, 23. Où il est dit ceci, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Des anciens pluriels, presbytères dans chaque église. D'une origine hébraïque, sagen, qui veut dire âgé, celui qui a une barbe ou celui qui a des cheveux gris. En grec, presbou veut dire âgé ou un homme âgé. L'idée principale ici souligne le caractère d'un homme qui est venu à maturité. C'est un homme mûr. C'est un homme mature. C'est un homme spirituellement stable, moralement intègre. Nous avons dans 1 Pierre 5, il est dit ceci, verset 1, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. » De nouveau, le même terme. Deuxième terme qu'on utilise pour décrire les anciens, c'est le terme « évêque ». Évêque. Alors c'est vrai que souvent ceux qui viennent du milieu catholique ont une pensée catholique ici, c'est un terme biblique à la base, d'accord? Le terme en grec c'est le terme épiscopos. Épiscopos, dérivé de deux termes grecs que vous connaissez un peu, épi, dessus, scopos, regard. D'accord? Qui veut dire celui qui regarde sur un autre, un surveillant ou un gardien. Et ce terme-là souligne non la maturité ou le caractère de l'homme, comme l'autre terme, mais celui-ci souligne la fonction de l'ancien. Sa fonction principale est celui de surveiller ou garder le troupeau. Le même mot était utilisé pour décrire ceux envoyés par Rome pour gouverner les nouvelles villes conquises. Ils étaient des épiscopos, des surveillants. Donc, les anciens surveillent, gardent, mènent, dirigent. Ces idées rentrent dans ce terme. Ils surveillent et mènent, de ce fait, l'Église. Donc, ancien, deuxièmement, évêque, et troisièmement, pasteur. Pasteur. Le mot grec, c'est poimen, littéralement, berger, pasteur. Et là, ce terme souligne le devoir. Le devoir de l'homme et répond à la question, mais comment l'ancien doit-il diriger l'Église? Eh bien, il dirige l'Église comme un berger dirige son troupeau. Il est berger ou pasteur, il dirige de la même manière. Il prend soin de son Église comme ce berger. Et là, vraiment, le terme décrit l'attitude de l'homme. C'est intéressant que le mot « paître » en français veut dire vraiment « nourrir », « nourrir ». Et dans 1 Pierre 5, 2, enfin 1, je vais déjà lire, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moins anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Paissez. » Donc, nous voyons tout de suite que les moyens principaux que le pasteur ou que les anciens prennent soin de leur troupeau, c'est comment ? En les nourrissant. En les nourrissant. Et ça, nous y reviendrons. Donc, il faut maintenant réunir ces trois termes, parce que, comme j'ai dit, ces trois termes décrivent trois facettes. C'est comme un diamant. Le diamant a des facettes différentes, mais c'est un diamant. Là, c'est trois facettes du même homme, ou de ces mêmes hommes, au pluriel. D'accord ? C'est intéressant que ces trois termes sont réunis justement dans 1 Pierre 5. Allez avec moi à 1 Pierre 5:1, et je vais relire, d'accord ? Pour que vous voyez ces trois termes ici, qui s'adressent aux anciens. 1 Pierre 5:1, il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens ». Donc, le terme « ancien », d'accord ? Presbytéros. Parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. PC, poimen, pasteur, soyez des pasteurs, vous les anciens. PC, le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, épiscopos. Les trois termes sont réunis, c'est très intéressant. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont déchu en partage, mais en étant les modèles du troupeau. On reviendra à toutes ces choses ultérieurement. Mais au moins là, on voit que ces trois termes sont bien réunis. Encore dans Acte 20, on voit ces trois termes réunis. Acte 20, 17, Paul est en train de parler aux anciens Éphèses et il dit, au verset 17, « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens. » Les anciens, premier terme. Et ensuite au verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Non, allez voir, c'est pas là. Allez voir là, j'ai perdu mon verset. Écoutez, dans verset 20, les trois termes sont réunis, mais j'ai oublié de les souligner. 28, merci, oui. Prenez donc garde, voilà, épiscopos à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Merci. Donc ces trois termes, de nouveau, on les voit. Les trois termes, pasteur, ancien évêque et ancien évêque, épiscopos surveillant, exactement. Donc, on résume. Un responsable d'une église locale doit être un homme d'expérience, d'intégrité et de caractère mûr, dont sa fonction est de surveiller et de garder l'église en étant berger ou pasteur de son troupeau. Donc voilà la définition un peu technique, si on veut, de ce qu'est un ancien. Alors voyons maintenant quel est le rôle. Quel est le rôle des anciens ? Quel est le rôle des anciens ? Il y en a plusieurs. Premièrement, les anciens doivent diriger l'Église. Diriger l'Église. 1 Timothée 5, et le verset 17, nous lisons ceci. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc on voit tout simplement ici que les anciens qui dirigent, il y a le rôle de diriger, imbibé dans le concept d'être ancien. Ils sont, on l'a déjà vu, des épiscopos, des surveillants à eux de diriger et de mener cette église. Alors ça c'est quand même très important. Parce que ce ne sont pas les membres de l'Église qui dirigent l'Église par des votes démocratiques. Beaucoup d'Églises, en fait, opèrent de cette manière. Mais ce n'est pas vraiment juste et précis bibliquement. Alors, il peut y avoir des votes, mais l'Église n'est pas dirigée par des votes. Non, bibliquement, ce sont clairement les anciens qui ont le rôle de mener l'Église. Alors bien sûr, les anciens sont redevables à l'Église et l'Église est donc appelée à nommer ses responsables tenant compte des critères clairs que les Écritures exigent d'eux. Et si les anciens échouent à leur devoir moral et de direction, l'Église doit intervenir. Si on doit honorer ceux qui dirigent bien, eh bien on doit réprimander ceux qui dirigent mal, n'est-ce pas ? Ça c'est logique, c'est logique. Donc l'Église a un monstre travail. C'est très important de faire partie d'une Église, d'être membre d'une Église, pour avoir ce regard sur les anciens. C'est très important, ils ont besoin d'être redevables à l'Église et l'un envers l'autre. Et les anciens vont également mettre en place des structures permettant à l'Église de pouvoir donner son avis et être impliquée dans les décisions importantes de l'Église, mais ce sont les anciens qui, en fin de compte, seront redevables à Dieu. Ça, c'est important, car dans Hébreux 13, 17, et ça, ce verset, il me fait tellement peur des fois, vous pouvez pas imaginer. Là, je vous révèle mon cœur. Des fois, j'ai vraiment peur de ce verset. Pourquoi ? Parce qu'il est dit ceci dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs. » Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, et qu'ils ne vous seraient d'aucun avantage. Je vais un jour, moi et les anciens de cette église, on va devoir rendre compte pour les âmes qui composent cette église. Alors comment déterminer qui la compose ou pas ? Ben, c'est là où nous avons le statut de membre. Les membres officiels sont vraiment les gens pour lesquels nous pensons, en tant qu'anciens, nous allons devoir rendre compte. C'est logique, il faut que les anciens soient définis, que les membres aussi soient définis. Donc je dirais que la réelle responsabilité est à ce niveau-là avant tout. Je trouve intéressant, je lisais un livre sur le sujet. Diriger et gérer un troupeau sont les fonctions importantes, comme le fait remarquer Jefferson, les brebis sont nées pour suivre. Il dit ceci, les brebis ne sont pas des voyageuses indépendantes, elles ont besoin d'un guide humain. Elles ne peuvent pas se rendre toutes seules dans un lieu prédéterminé. Elles ne sont pas capables de sortir le matin à la recherche de verts pâturages et de rentrer à la bergerie le soir. Elles n'ont, semble-t-il, aucun sens de l'orientation. Le pâturage, le plus gras, est peut-être tout près, mais livré à elle-même, les brebis sont incapables de le trouver. Quel est l'animal qui est aussi dépourvu que la brebis ? Elle mesure son impuissance, car aucun animal n'est plus docile qu'elle. Elle suit le berger là où il la conduit. Elle sait que le berger est un bon guide et qu'elle a tout intérêt à le suivre. C'est intéressant, il y a 26 ans en arrière, mon épouse et moi, on était en lune de miel et on a reçu des billets gratuits pour aller en Nouvelle-Zélande. On est en Nouvelle-Zélande, on a loué une voiture. Ça m'a presque tué 4 fois parce qu'on conduit de l'autre côté de la route. Alors ça, c'était déjà le premier problème. Mais un jour, je me rappelle, comme si c'était hier, on était en train de conduire, on était à la campagne. Il y avait des bois, il y avait des arbres. Et on conduisait et tout d'un coup, il y avait des brebis. C'était une ligne de brebis à perte de vue. Elles étaient à côté de nous, la voiture. Et on a vu que, quand on a vu la première ligne de ces brebis, l'une après l'autre, vraiment en ligne droite, on a vu qu'elle venait sur la route à partir d'un champ. Et on a regardé dans le champ, on a vu cette ligne de brebis, on ne voyait pas d'où elle venait. Et ensuite, alors on a pris la voiture, on a continué pendant un bon moment, et ensuite on a vu que ces brebis étaient reparties de la route pour aller dans un champ, et de nouveau, on ne voyait pas où elles terminaient. Et on s'est dit, mais où est le berger ? Ben, on ne voyait pas le berger. Les brebis derrière, je vous garantis qu'elles faisaient confiance au fait qu'il y avait un berger devant. Mais elles suivaient. Elles suivaient tout simplement toutes les autres brebis. Et je me suis dit, mais si elles suivent un mauvais berger, là, elles ont confiance. Les brebis ont confiance. Et j'ai vu l'importance d'être un bon berger et de mener les brebis au bon endroit et pas au mauvais endroit. Donc, les anciens doivent mener, doivent diriger. Bien sûr, ils doivent le faire comment ? Avec compétence et amour. Dans Tite 3:5, nous lisons ceci. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de régénération et le renouvellement de Saint-Esprit. Bien sûr, parlant de la manière que le Seigneur nous a sauvés, nous devons guider le troupeau de la même dextérité que lui nous a sauvés, que lui nous mène. Nous devons, selon 1 Timothée 5:17, bien diriger l'Église. Et je dirais une autre chose, et ça c'est un point important, nous devrions aussi, ou les anciens devraient diriger l'Église à plusieurs. À plusieurs. Écoutez bien ce que je vais dire. Sauf pour trois exemples dans le Nouveau Testament où les auteurs se décrivent eux-mêmes en tant qu'anciens, le mot « ancien » est toujours utilisé au pluriel dans la Bible. J'ai lu tout à l'heure Actes 14, 23, où Paul dit ceci, « Ils firent nommer des anciens dans chaque église. » Le terme est au pluriel. Et nous voyons, en traçant le terme « ancien » au pluriel, que la norme dans une église locale, c'est qu'il y ait plusieurs anciens. Je dirais au grand minimum deux, mieux, plus c'est mieux. Y a-t-il des exceptions ? Je pense qu'il y a probablement des exceptions, surtout peut-être quand une église démarre. Peut-être il y a un missionnaire qui est là, et donc il démarre. Les choses doivent commencer, il doit y avoir quelqu'un, comme Paul l'était, comme il a demandé à Timothée et à Tite de nommer des anciens dans leurs églises. À un moment donné, il y avait une sorte de présence apostolique, mais très vite, des anciens sont nommés. Pourquoi plusieurs ? Ah, ben il y a des avantages. Premièrement, les anciens ont des dons différents. Il y a donc complémentarité de dons. Il y a aussi des conseils combinés. Il y a aussi des perspectives différentes sur des points de vue. Et cela peut être très enrichissant. La sagesse est multipliée. Les décisions sont équilibrées. C'est précieux d'avoir un conseil d'anciens unis, mais divers en même temps, ou diversifiés, je dirais. Proverbe 11, 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » D'être plusieurs et d'avoir ces conseils multipliés est extrêmement utile. Alors, combien d'anciens devrait-il y avoir ? Et la Bible ne précise pas. Je pense que ça dépend vraiment de chaque église, de la taille de l'église, du besoin ressenti par l'église pour des anciens. Alors, question encore, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs anciens annule le fait qu'un des anciens sera plus leader que les autres ? Certains milieux chrétiens préconisent que les anciens d'une église sont tous absolument égaux. Et qu'aucun des anciens ne devrait avoir une place prépondérante. Alors je comprends cette perspective, elle n'est pas fausse. Pas fausse dans le sens d'égalité devant Dieu. Il est parfaitement juste de dire que les anciens sont absolument égaux devant Dieu, inclus celui qu'on pourrait nommer le pasteur. C'est souvent dans nos milieux comme ça, on a les anciens et le pasteur. Bien que bibliquement, tous les anciens sont égaux. Un pasteur n'est qu'un ancien parmi d'autres, égaux aux autres anciens qui composent le conseil d'anciens. Toutefois, il est évident que les anciens vont avoir des dons et des capacités différentes. Certains anciens vont être axés sur l'enseignement, d'autres vont être axés sur le leadership. Et ça, on le voit très bien dans 1 Timothée 5, verset 17, que les anciens qui dirigent bien, donc il y a des anciens qui dirigent mieux que d'autres, soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc on voit que des anciens ont des dons, peut-être même des rôles différents, certains plus dans le leadership, d'autres plus dans l'enseignement. Donc ça c'est juste, c'est pas un mal. Et cela va forcément créer à l'intérieur d'un conseil d'anciens un leadership dans le leadership. Si vous regardez dans l'histoire d'Israël et du Nouveau Testament, vous allez vite réaliser qu'il y a toujours eu ce qu'on peut appeler ceux qui étaient les leaders des leaders. Par exemple, Moïse. Par exemple, Josué, ou les juges, ou Abraham, ou David, ou dans le Nouveau Testament, il y a Paul, Pierre, Étienne, Jacques, il y a toujours ceux qui étaient quelque part les meneurs des meneurs. Je pense que c'est la nature du leadership. Il y aura dans tout groupe, vous mettez un groupe ensemble, vous attendez un petit peu, et vous verrez que quelqu'un va mener ce groupe. Il y aura un leadership qui va presque automatiquement se faire. Il y aura dans tout groupe quelqu'un qui va souvent tirer le groupe dans sa vision, dans son enseignement, possiblement dans son charisme, espérons, dans ses qualités d'homme de Dieu et de vie irréprochable. Ça, c'est la clé. C'est ça la clé. Il y aura toujours ce que j'appelle les leaders des leaders. Je ne pense pas que c'est un mal, mais tout à fait normal. Alors écoutez très bien encore ce que je vais dire, parce que ça, c'est très important. Comment est-ce qu'un collège d'anciens mène l'Église à l'unanimité ? À l'unanimité. Lorsque les anciens sont appelés à prendre une décision, et surtout des décisions importantes, ils ne devraient pas le faire par un vote ou par une majorité entre eux. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Non, toute décision devrait être prise à l'unanimité. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est compliqué, des fois. Ah oui, c'est compliqué. Mais c'est très bien. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, l'Esprit de Dieu est un. Il est donc indivisible. C'est intéressant que ce même Esprit qui est un met en place les anciens d'une Église. Dans Actes 20, 28, nous lisons ceci. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Alors, dans un mystère qui est celui de Dieu, lorsqu'un ancien est mis en place dans une église, il est là, et le Saint-Esprit le place là. Les anciens, nous l'espérons, seront des hommes remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Ne vous enivrez pas de vin, Éphésiens 5, 18, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc ils devraient être remplis de l'Esprit, ils devraient marcher par l'Esprit, Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et 1 Corinthiens 1, 10 nous montre ceci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc ça doit être possible. Ça doit être possible s'il nous dit de le faire. Alors, peut-être au niveau de l'Église, c'est peut-être compliqué des fois, mais au niveau des anciens, ça doit être possible. C'est possible. Et donc, notre souhait dans cette Église, c'est que cette unité dans l'esprit soit préservée. Et une des manières de le faire, c'est d'exiger que chaque décision prise par le conseil d'anciens soit prise à l'unanimité. Alors, les avantages sont innombrables. Toute l'autorité et le pouvoir ne reposent pas sur un homme. Ça, c'est très important. Un homme n'a pas tout le pouvoir. Si toutes les décisions sont prises à l'unanimité, cela n'arrivera pas. Les anciens, ainsi, deviennent redevables les uns envers les autres. Les sujets doivent être compris et étudiés pour que les décisions réfléchies soient prises ensemble. On ne peut pas prendre des décisions à la va-vite comme ça. Il faut vraiment réfléchir, vraiment étudier, vraiment comprendre. S'il y a un sujet de divergence entre les anciens qui est possible, alors voici ce qui devrait être fait. La décision ne devrait pas être prise. Le ou les anciens qui divergent sont alors mandatés de rédiger un travail sur leurs points divergents et d'apporter les arguments bibliques pour convaincre les autres anciens du bien fondé de leur point de vue. Et la décision n'est prise que lorsque tous les anciens sont unanimes. Alors je vous dis franchement, moi ça fait 23 ans que je suis pasteur, c'est génial de parler comme ça. Génial. C'est un garde-fou excellent. Dans tous les conseils d'anciens dans lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours essayé d'opérer de cette manière. Je peux dire que globalement, toutes décisions prises dans les conseils d'anciens auxquels j'ai fait part ont été prises à l'unanimité. Presque toutes, j'ai envie de dire. Cela n'a pas toujours été facile, mais extrêmement utile. Et je pense que cela est une chose précieuse pour une Église. Assurément, le jour où un conseil d'anciens devient divisé, et surtout sur des sujets importants, cela est souvent le début de la fin. Et lorsque le conseil d'anciens est divisé, qui alors tranche ? Qui tranche ? Ça devient extrêmement compliqué, et cela amène souvent à des divisions d'église. Donc voilà le souhait exprimé de notre opération, et pour l'instant, Nous sommes deux anciens et c'est comme ça que ça a été fait. On a déjà eu de longues discussions sur les sujets avant de prendre nos décisions à l'unanimité. Et j'en remercie beaucoup, José, pour ton attitude, la manière que tu travailles, qu'on travaille ensemble. C'est super, vraiment c'est super. Et on ne peut qu'espérer que d'autres anciens vont s'ajouter au conseil d'anciens pour que nous puissions encore plus travailler à plusieurs dans l'unanimité. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, puisque je pourrais continuer pendant les heures et les heures, et on continuera dimanche prochain. Mais j'espère que c'est une bonne manière de commencer, que vous allez vraiment pouvoir là maintenant comprendre mon cœur, notre cœur. Toutes ces choses, elles sont dans la lettre que vous avez reçue cette semaine, pour qui sont les membres, je suis en train simplement de les détailler. Elles sont aussi dans la Constitution, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec ces choses. Donc tout est clair, tout est limpide et ouvert ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander. Mais moi, je suis vraiment content de pouvoir méticuleusement, lentement, travailler ces choses. Et je vous demande vraiment, je vous demande de prier pour nous, prier pour vos responsables. On a vu le portrait de mauvais leader ce matin. On a commencé à voir le portrait d'un bon leader. Nous, on veut être des bons leaders. C'est aussi simple que ça. Je veux vraiment être un bon leader. Je sais que José, le conseil d'anciens aussi. Et si vous voyez des choses dans nos vies qui ne sont pas conformes, vraiment, nous vous invitons à venir nous voir. Et ça, on en parlera encore. Mais nous sommes une église. Oui, nous avons un privilège de mener cette église, mais c'est aussi avec grande crainte. Donc venez nous voir, et nous, on viendra vous voir aussi. Alors, c'est toujours réciproque, bien sûr, on est obligé de progresser comme ça, et que le Seigneur bénisse cette église. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, merci de tout cœur. Merci pour la parole de Dieu qui est si claire sur ces sujets. Nous voulons, Seigneur, être fidèles à ta parole, et nous voulons savoir comment appliquer ces choses dans cette nouvelle église. Aide-nous, Seigneur, à le faire. Aide-nous à être droit, à être limpide et transparent, Seigneur. Et nous nous réjouissons déjà de pouvoir revenir dimanche prochain et continuer notre étude et surtout voir les qualifications que toi tu poses dans la parole de Dieu pour être ancien. Et Seigneur, je te prie de susciter dans notre Église des leaders, que ce soit des anciens ou d'être responsables de service, des hommes, des femmes qui vraiment soient qualifiés et qui soient consacrés à Jésus-Christ pour ton œuvre. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas Christ, Seigneur, tu vois que c'est un peu technique ce que nous voyons, mais Seigneur, on ne serait même pas là en train de discuter l'Église et les responsables d'Église si on n'était pas en Jésus-Christ, sauvé de notre péché. Seigneur, c'est toi qui as commencé cette œuvre en nous. Et s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Christ, Seigneur, qu'aujourd'hui puisse être le jour où ils disent oui, je veux être chrétien, je veux être pardonné de mes péchés, je veux recevoir la vie éternelle. Et Seigneur, s'il y a un chrétien dans cette assemblée aujourd'hui qui peut-être doit confesser quelque chose, doit retrouver une nouvelle direction dans sa vie, Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, tu travailles leur cœur. Seigneur, merci de tout cœur pour tes bienfaits. Et nous t'aimons au nom de Jésus-Christ.